Voilà, que Dieu, en tout cas, nous aide, et il nous faut aussi prier pour tout cela, prier pour que cette pandémie recule, prier aussi parce que nous voyons bien que les temps dans lesquels nous vivons sont exceptionnels, mais Jésus est à la porte, il revient. C'est notre espérance à nous chrétiens, et nous voulons vraiment lever les yeux vers lui. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans Ésaïe, le premier passage. Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a écrit beaucoup de choses prophétiquement sur Jésus, sur sa personne, sur son ministère, très précis dans ses prophéties à l'égard de Jésus, à tel point que certains ont même surnommé le livre du prophète Jérémie l'Évangile selon Ésaïe, tellement qu'il parle de Jésus dans son livre. Ésaïe 35, à partir du verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. On peut s'arrêter là. Passage extraordinaire. Et nous voulons réaliser qu'en Jésus, eh bien, ces choses s'accomplissent en Jésus et par Jésus, les aveugles retrouvent la vue. Alléluia. Les sourds entendent et les boiteux sautent comme des cerfs. Et on pense à Actes chapitre 3 où le boiteux du temple a été guéri. Et lorsqu'il a été guéri, il sautait de joie de pouvoir utiliser ses jambes normalement. Et il est entré dans le temple avec beaucoup de louanges. On va lire un second texte d'introduction dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, verset 46, l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Quelle histoire extraordinaire que j'aime beaucoup, que cette histoire de la guérison de cet aveugle qui s'appelait Bartimée, qui était là, eh bien, à côté de Jéricho, porte de Jéricho, il se tenait là pour mendier. quelques pièces pour pouvoir tout simplement manger, eh bien, s'il mendiait son pain, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas travailler, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas travailler et il n'y avait pas les aides sociales que nous pouvons avoir aujourd'hui à cette époque. Et ainsi, tous ceux qui avaient certains handicaps, comme le boiteux du temple dont je parlais tout à l'heure, comme cet aveugle et puis bien d'autres malades aussi, eh bien, n'avaient comme seule ressource eh bien que de mendier leur pain, surtout si ces personnes n'avaient pas de famille. On peut s'imaginer le quotidien de cette personne, toutes les contraintes quotidiennes, toutes les astreintes quotidiennes de sa vie quotidienne à laquelle il était soumis chaque jour, en plus de sa cécité, le fait de ne pas pouvoir se déplacer normalement, et puis le fait, bien sûr, de devoir demander la charité pour pouvoir simplement manger. Donc on essaye de s'imaginer, de se mettre à la place, mais bien sûr, c'est tant qu'on n'y est pas vraiment, on ne peut pas vraiment comprendre ce que ces personnes peuvent vivre. Et lorsque Jésus passe par là, il a entendu parler de Jésus, la renommée de Jésus va en grandissant dans tout le territoire. Jésus, on a entendu parler de lui, il guérit les malades, il purifie les lépreux, il délivre les démoniaques. Enfin voilà, Jésus va de lieu en lieu, faisant du bien, prêchant l'évangile, annonçant le royaume de Dieu. Alors cet homme qui n'a plus ses yeux a encore ses oreilles, il a entendu cette renommée de Jésus. Et donc lorsque Jésus va passer par ce chemin où il se trouve, il va crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors on voit que cet homme, eh bien, se fait reprendre, plusieurs le essayent de le faire taire, mais il crie plus fort, il crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'est arrêté. Ouais, c'est formidable quand Jésus s'arrête et il va l'appeler. Et les gens qui sont là appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle et d'un bond, cet homme va se lever et va aller vers Jésus qui va le guérir. » Ce que j'aimerais retenir de cet épisode, il y aura beaucoup de choses bien sûr à retenir, mais j'aimerais surtout retenir cette expression que nous retrouvons à plusieurs reprises, de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, c'est au verset 49, « Prends courage ». Prends courage. On retrouve cette expression de nombreuses fois et Bartimée va pouvoir prendre courage parce que celui qui l'appelle n'est autre que celui après qui il crie « Jésus de Nazareth ». C'est Jésus qui l'appelle, c'est pour ça qu'il pourra se lever, il pourra prendre courage. Et j'aimerais vraiment parler du courage ce matin, il nous faut vraiment prendre courage, comme nous dit la parole de Dieu. Il est vrai que déjà Bartimée a montré un certain courage, déjà pour vivre dans la situation dans laquelle il se trouve. On ne sait pas depuis combien de temps il est là, mais en tout cas, ça doit faire déjà une paire d'années qu'il se trouve aveugle et qu'il doit être obligé de mendier son pain. Et puis, il a fallu aussi du courage pour crier plus fort lorsque les personnes essayent de le faire taire. Mais là, c'est autre chose. Jésus l'appelle. Il va pouvoir prendre courage fort de l'appel du Seigneur. Prends courage, prends courage. Cette expression, nous la retrouvons à maintes reprises dans la parole de Dieu. Par exemple, nous la retrouvons 4 fois, rien que dans le chapitre 1er du livre de Josué. Et le Seigneur va dire à 4 reprises à Josué de prendre courage. Et même, il lui dira au verset 9 du chapitre 1er de Josué, il lui dira ceci, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» C'est un ordre. « Prends, fortifie-toi et prends courage. » Prends courage. C'est un ordre du Seigneur. Comprenez ? Et parce qu'il va falloir du courage à Josué pour s'emparer du territoire de Canaan, il va falloir du courage parce qu'il y a là des citadelles qui sont réputées imprenables comme Jéricho, des il y a les fameux enfants d'Anak qui sont là, ces géants qui peuplent Canaan qui sont là. Il va donc falloir beaucoup de courage, non seulement à Josué, mais aussi à tout le peuple. Et c'est d'ailleurs le message que Josué va communiquer au peuple. Il va encourager le peuple. Il va falloir du courage à ce peuple. Et nous retrouvons, bien sûr, Josué face à différentes batailles qu'il va remporter. Et il peut être encouragé parce que là encore, c'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui lui adresse la parole, c'est Dieu qui marche devant lui, c'est le Seigneur qui va, remporter la victoire et ils vont quelque part suivre le Seigneur qui est le chef des armées, l'Éternel des armées, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Prends courage. Parfois nous, devant certaines situations, nous faisons cette prière au Seigneur. Seigneur, donne-moi du courage. Ce à quoi le Seigneur pourrait nous répondre, prends courage. C'est à nous de prendre courage. Nous faisons cette prière, et je ne dis pas que nous avons tort de la faire, nous avons raison de la faire. Mais le Seigneur peut répondre à cette prière, prends. Prends courage parce que c'est lui, c'est Jésus qui t'appelle. Prends courage parce que c'est Jésus qui te parle. Prends courage parce que c'est Jésus qui a vaincu la mort. Prends courage parce que c'est Jésus qui a vaincu l'ennemi. Prends courage parce que c'est Jésus qui peut guérir les malades. Prends courage parce que c'est Jésus qui délivre. Prends courage parce qu'il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous pouvons prendre courage parce qu'il nous entoure par devant et par derrière. Il est celui qui met sa main sur nous. Prends courage parce que personne ne pourra te ravir de sa main. Le courage n'est pas de l'enthousiasme, n'est pas un zèle déraisonné. On parlait du zèle il y a une quinzaine de jours. Le courage n'est pas non plus le fait de cacher sa peur, ou encore de l'euphorie, ou encore l'amour du risque, ou je ne sais quoi encore. Le courage n'est pas non plus de l'entêtement, ou de l'orgueil. C'est bien plus que cela. Le courage est de la fermeté face à une épreuve, qu'elle soit physique ou morale, face à toutes les déceptions que nous pouvons avoir, face à toutes les contrariétés, face à tous les obstacles, à tous les défis, il nous faut du courage. Le courage nous aide justement à surmonter tous les dangers. Ils sont là, ils sont bien réels. Le courage n'est pas aveugle. Mais il nous aide à surmonter tous ces dangers, toutes les épreuves et tous les défis. Ce courage-là, il peut être physique, il peut être moral, intellectuel et spirituel, et bien sûr le tout combiné. Il nous faut du courage pour être disciples de Jésus. D'ailleurs, une fois que Bartimée va être guéri de sa cécité, il est dit au verset 53 qu'il a suivi Jésus dans le chemin. On voit que cet homme a suivi Jésus dans le chemin. Un chemin qui va l'amener à vivre des choses qu'il n'a jamais vécues jusqu'alors. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Et en suivant Jésus, Bartimée va vivre aussi ces choses-là. En suivant Jésus, Bartimée va voir des choses extraordinaires, mais va vivre aussi des temps difficiles. Et pour tous ceux qui suivent Jésus, pour les disciples du Seigneur Jésus, nous avons besoin de courage. Car rappelons-nous que l'apôtre Paul écrit à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécuté. J'aimerais, encore rappeler que ces choses nous concernent tous. Elles concernent, bien sûr, ceux qui sont dans certains pays oppressés à cause des lois du pays, à cause de la haine qu'ils peuvent avoir envers le message de l'Évangile, envers les chrétiens et envers la personne du Seigneur Jésus. Mais ce message nous concerne à nous aussi aujourd'hui. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus l'Église sera plus persécutée et plus il nous faudra du courage. Il nous faudra du courage pour suivre et continuer à suivre Jésus. Il nous fera du courage pour prendre position. Pour prendre position face à toutes sortes de choses qui se passent, qui vont à l'encontre de notre foi chrétienne, qui vont à l'encontre de l'Évangile. Il nous faudra du courage pour garder le bon dépôt, pour garder la foi. Il nous faudra du courage pour faire les bons choix. Oui, en tant que chrétiens, nous avons une expérience extraordinaire. En tant que chrétiens, nous vivons des choses extraordinaires, mais aussi, nous le savons, que nous vivons des tribulations, que nous vivons des épreuves par le simple fait de notre foi en Jésus-Christ. Ce courage, il a commencé déjà le jour de notre conversion, lorsque nous nous sommes repentis. Quelque part, il faut du courage pour se repentir, pour non seulement se remettre en question, demander pardon et changer totalement de direction, changer nos pensées. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Il nous faut donc du courage pour confesser notre foi en Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, au verset 42, il nous est dit que plusieurs crurent en Jésus, mais ils n'en firent pas l'aveu dans la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parce qu'ils savaient que s'ils faisaient l'aveu de leur foi en Jésus, ils seraient exclus des synagogues, ce qui impactait non seulement leur vie religieuse, mais leur vie sociale aussi. Il faut donc du courage pour confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous en faudra de plus en plus. Mais prenons courage, car le Seigneur Jésus est celui qui est avec nous. Qu'est-ce qui fait que parfois nous perdons courage? Qu'est-ce qui fait que nous sommes découragés? Lorsque nous voyons les difficultés, lorsque nous voyons les combats, lorsque nous voyons l'opposition plus grande qu'elle ne l'est en réalité, j'aimerais avec vous lire dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. David est encore qu'un enfant. À ce moment-là, il va s'adresser au roi Saül. Vous voyez, on a l'image, c'est hallucinant quelque part. C'est un enfant qui va dire à un roi, Saül, ce roi est habitué à la guerre. C'est un homme de guerre, Saül, en plus d'être roi. Et David va lui dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh ! Toute l'armée d'Israël, à chaque fois que Goliath s'avance dans la vallée, toute l'armée d'Israël est complètement découragée. Et vous savez ce que fait le découragement ? Il produit de la panique, de la peur. Ils vont se cacher là où ils peuvent. Mais qui était Goliath? C'était qu'un homme, hein? C'était qu'un homme, ce Goliath. Et le Seigneur était avec eux. Le Seigneur marchait avec le peuple d'Israël. C'est vrai qu'il était impressionnant. Sa taille pouvait impressionner. Et cette impression qu'il donnait sur le peuple d'Israël provoquait beaucoup de découragement. Mais David avait les yeux de la foi. David regardait à l'Éternel. Contre ce Goliath, David savait qu'il marchait au nom du Seigneur et que pour lui, pour le Seigneur, ce Goliath, c'était rien, que de la poussière. Et que David savait qu'il pouvait être remporter la bataille contre ce Philistin et il va communiquer ce courage par la victoire qu'il va remporter. Il va communiquer le courage à tout le peuple d'Israël. C'est une ruse de l'ennemi. Vous voyez, c'est une ruse de l'ennemi de nous faire croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Il essaye de nous intimider parce qu'il sait qu'alors nous allons nous décourager. Voyant qu'il ne peut pas arriver, à nous nuire, il va nous saper le moral. Il va nous intimider pour nous décourager. Comme le peuple l'a vécu à maintes reprises dans Esdras chapitre 4, verset 4. Il est dit ceci, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Voilà que la construction du temple a débuté dans des moments peu favorables. Mais, là encore, il y avait une direction de Dieu, il y avait une parole de Dieu, et ils ont commencé à construire. Voyant cela, leurs ennemis ont essayé tout un tas de tentatives pour essayer d'arrêter cette construction. Voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont découragé le peuple en l'intimidant. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et les choses vont marcher ainsi. Le temple, la construction du temple va s'arrêter, va s'interrompre. Et il faudra l'arrivée des prophètes, Zacharie et Agée, pour remotiver le peuple à reconstruire le temple du Seigneur. Vous voyez, ça c'est un sujet de l'ennemi. Parfois il nous arrive certaines choses dans notre vie qui nous paraissent énormes. Et on se dit, mais je vais jamais m'en sortir. Mais le Seigneur est celui qui combat avec nous, à nos côtés. Alléluia. Le Seigneur est celui qui donne la victoire à son peuple. Le découragement se communique très rapidement. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Moïse va envoyer les 12 espions pour explorer le territoire de Canaan, 10 d'entre eux, il a suffi de 10 hommes pour décourager tout le peuple, parce que eux-mêmes étaient découragés. Et quelqu'un qui est découragé, il communique son découragement. Pourquoi, là encore, je dis, mais nous avons vu les enfants d'Anak. On était comme des sauterelles à leurs yeux. C'est tout petit une sauterelle. Je crois qu'ils exagéraient un petit peu. C'est vrai que les enfants d'Anak étaient grands, mais quand même. Si vous voyez une sauterelle à côté de vous, c'est tout petit. Et puis il dira, on a vu aussi ces citadelles fortifiées jusqu'au ciel. Là encore, je pense qu'ils exagéraient un petit peu. Même s'il y avait Jéricho qui était réputée, elle n'était pas fortifiée jusqu'au ciel. Vous voyez, ils voyaient avec leurs yeux humains et ils étaient impressionnés. Ils ont été découragés et ils ont découragé tout le peuple. Il y avait dans la loi de Moïse cet ordre. Lorsque le peuple partait en guerre, il est dit ceci que celui qui était craintif, qui avait peur, devait rester chez lui. Pourquoi ? Parce que sur le champ de bataille, il pouvait décourager tout le monde. Voilà, c'est écrit dans la loi de Moïse, dans Deutéronome chapitre 20, verset 8. À cause de ça, il pouvait décourager les autres. On voit que le découragement se communique. Alors, nous voulons regarder au Seigneur, parce que lui, il est celui qui est au-dessus de tous nos problèmes, de tous nos ennemis. On peut encore se décourager lorsque nous ne voyons pas le fruit de ce que l'on fait, de notre travail, de notre persévérance peut-être même, ça nous décourage et on se dit, ben, à quoi bon continuer? Vous voyez, quand on commence à avoir ce genre de langage, c'est que quelque part, eh bien, cela est le reflet du découragement dans notre cœur. Quand on ne voit pas, quand on fait face à différentes déceptions que nous pouvons avoir, ou alors quand on se compare aux autres. Voilà, on se compare aux autres. Lui, il a réussi. Moi, j'ai rien réussi. Vous voyez, quand on commence à se comparer, c'est pas bon, parce que nous nous décourageons. Alors, nous voulons regarder à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous encourager? Je parlais tout à l'heure de la parole de Dieu. C'est ce qui va encourager Bartimée lorsqu'il va être appelé par le Seigneur. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. En fin de compte, l'appel de Dieu, la parole qu'il nous adresse, nous fortifie et nous encourage. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a dit quelque chose, c'est Dieu lui-même. Et si Dieu nous a dit quelque chose, il a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Il a la puissance de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir cette mission. J'aimerais avec vous lire dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33, un verset que nous connaissons bien, mais qui est bien approprié à notre message de ce matin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Là encore, je rappelle ce que je disais au début du message. Le Seigneur ne dit pas « je vous donnerai du courage », mais prenez courage. C'est quand même différent. Prenez courage. Et pourquoi nous pouvons prendre courage? Au milieu des tribulations que nous aurons, peut-être que nous avons déjà, de toute façon, c'est une certitude. Nous les aurons. Ça aussi, c'est le Seigneur qui l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais si nous pouvons prendre courage au sein de ce monde, au sein de ces tribulations, c'est parce que Jésus a vaincu ce monde. Il a vaincu ce monde. N'a-t-il pas remporté une éclatante victoire sur la croix? Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vrai qu'il est écrit par ailleurs que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais qui est au-dessus du malin? Et qui est celui qui l'a déjà vaincu? N'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ? Certes, il le laisse agir, il lui permet d'agir encore quelque temps sur cette terre, mais nous savons que celui qui aura le dernier mot, c'est notre Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante sur la croix. Jésus a vaincu ce monde. Alléluia! Ce monde qui oppresse l'Église, ce monde qui s'enténèbre de plus en plus, ce monde qui s'éloigne de Dieu de plus en plus, ce monde qui promulgue toutes sortes de lois, de règlements qui vont à l'encontre du message de l'Évangile, Jésus l'a déjà vaincu. Amen. Que son nom soit béni. Il a déjà remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur toutes nos tribulations, qu'elle soit collective, qu'elle soit personnelle. Jésus est celui qui a remporté la victoire. Amen. Il a remporté la victoire sur nos propres péchés, sur nos propres problèmes, sur nos propres fautes, sur nos iniquités. Nous pouvons lire encore dans Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui mena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. On retrouve encore cette expression, « Prends courage. » Cet homme est paralysé. Mais Jésus va lui dire, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Avant de lui dire, « Je vais te guérir, tu es guéri de ta paralysie. » Avant de lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », comme nous le voyons au verset 6, le Seigneur va d'abord lui dire, « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Il aurait pu lui dire, « Prends courage, je vais te guérir. » Il aurait pu lui faire cette promesse. Et quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre dans son corps à cause d'une maladie, on peut comprendre qu'une telle promesse va lui redonner espoir, va lui redonner du courage. Mais c'est pas ça que le Seigneur lui dit. Mon enfant, tes péchés, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est terrible que de vivre avec le poids du péché. Ce péché qui apporte beaucoup de culpabilité, ce péché qui apporte beaucoup de conséquences néfastes, ce péché qui détruit, ce péché qui salit. C'est terrible de vivre avec cela sans espoir de pouvoir s'en sortir, sans espoir de pouvoir être pardonné, de vivre avec ce poids de culpabilité, avec cet esclavage du péché, sans pouvoir s'en sortir. Il y avait quelque chose qui le paralysait encore plus, cet homme, que sa paralysie physique, c'était bien une paralysie intérieure à cause du péché. Et ce péché nous est tous commun, à vous et à moi. Personne n'y échappe. Mais prenons courage. Alléluia. Car en Jésus, nos péchés sont pardonnés. L'apôtre Paul parle du combat intérieur dans Romains chapitre 7. Il dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas, je le fais, c'est plus fort que lui. Et il parle de cet esclavage du péché. Il dira, mais misérable que je suis. Alors là, il y a de quoi être découragé hein, face au péché. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Qui me délivrera de ce corps de mort misérable? Alors là, on est découragé parce que on aimerait ne pas recommencer ce qu'on fait, on aimerait s'en sortir, mais c'est plus fort que nous, voilà qu'on replonge dedans. Mais l'apôtre Paul s'écrit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. » Alléluia. C'est extraordinaire. Oui, nous pouvons prendre courage parce qu'il est non seulement celui qui délivre, il est celui qui pardonne, il est celui qui nous purifie de tout péché, il est celui qui vraiment nous donne la force de pouvoir le surmonter, la force parce qu'il a remporté une victoire, là encore, sur la croix, une victoire éclatante, que son nom soit glorifié. Alors prenons courage, mes frères et sœurs. Nous pouvons être vainqueurs de tous nos problèmes, de tout ce qui vraiment nous mine au plus profond de nous-mêmes. Jésus est le grand vainqueur. J'aimerais avec vous lire encore dans Luc chapitre 21, verset 28. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le propre de quelqu'un qui est découragé, souvent, c'est tête baissée, hein, courbée, les bras tombent, mais fortifiés, les mains languissantes. Alléluia, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 35. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Notre délivrance approche. Alléluia. Quand nous verrons ces choses qui commencent à arriver, et est-ce qu'elles commencent à arriver, dites-moi, notre délivrance approche. Et c'est vrai que le retour du Seigneur, quand il va venir chercher son Église, mais c'est un puissant encouragement pour l'Église, ça. C'est un puissant encouragement parce qu'elle sait que son Seigneur viendra la chercher. Elle sait que quoi qu'il arrive, Jésus la prendra et la délivrera. Alléluia, de toutes ces oppressions qui existent sur cette terre, de toutes les mauvaises choses. Alors nous pouvons nous redresser et lever notre tête, que son nom soit glorifié. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de perdre courage. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé, ça nous arrive tous. De vivre ces temps de découragement parce que, voilà, il y a des choses qui se passent dans notre vie, des choses répétitives peut-être, des choses qui sont là et qui se succèdent les unes après les autres, et on ne pense pas pouvoir s'en sortir. Élie, le prophète Élie, l'homme de Dieu, a connu cette période de découragement face aux menaces de Jézabel. On peut parler de l'apôtre Paul aussi. Le Seigneur lui a dit aussi de prendre courage. On pourrait lire dans Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. On peut se mettre à essayer de comprendre ce que vivait Paul. Il vient d'échapper de justesse à une lapidation. Il vient d'être frappé par un membre du Sanhédrin. Il est là, emprisonné, devant des juges qui l'accablent de toutes sortes de choses. On peut essayer de comprendre ce que Paul vivait. Il avait besoin d'entendre de la part du Seigneur « Prends courage ». La raison, c'est que non seulement il a rendu témoignage à Jérusalem, mais il fallait aussi qu'il aille jusqu'à Rome. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait prendre courage. Il y avait une direction de Dieu. Dans Acte 28, verset 15, Paul se trouve maintenant à Rome. Les mois ont passé. Les mois ont passé, l'apôtre Paul a passé plusieurs mois, de longs mois en prison. Il vient de traverser la Méditerranée dans des circonstances vraiment difficiles. Ce n'était pas un bateau de croisière 4 étoiles. Il a subi une tempête de plusieurs jours. Ils se sont retrouvés sur l'île de Malte où l'apôtre Paul a été mordu par un serpent et le serpent ne lui a fait aucun mal. Nous connaissons cette histoire et donc ils arrivent. Verset 15, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Ah, j'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset parce que on voit là un homme, l'apôtre Paul, qui a vécu des longs mois de difficiles, dramatiques pour lui, pour aussi les frères qui l'ont accompagné. Et il nous a dit que c'est lorsque Paul a vu les frères qu'il a pris courage. Paul sait qu'il n'est pas tout seul. Il voit enfin les frères. Il les voit, ses frères en Christ. Et ça lui fait chaud au cœur. Et il prend courage. Vous voyez, on a besoin de l'Église. On a besoin de la communion fraternelle. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Et combien de fois on pourrait en témoigner les uns et les autres? Combien de fois nous ne sommes pas entrés dans l'Église découragés, fatigués intérieurement, lassés? Combien de fois on était à bout lorsqu'on est venu à l'Église? Mais combien de fois aussi nous sommes ressortis pleins de courage? Parce que, en voyant les frères et sœurs, certains nous ont adressé la parole, certains nous ont souri, certains étaient là à nos côtés pour prier pour nous. Nous avons chanté les cantiques et nous avons entendu la parole de Dieu. Ça nous a fait tellement de bien qu'on a repris courage. Alléluia. On a repris courage. Peut-être on a vécu des choses difficiles durant les jours qui ont précédé. Peut-être maladie, peut-être des problèmes familiaux intenses, difficiles. Mais le Seigneur nous a fortifiés. Fortifie-toi et prends courage. C'est l'ordre que va donner l'Éternel à Josué. Et c'est aussi le message que le Seigneur nous adresse ce matin. Nous voulons nous fortifier et prendre courage. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Et avec Jésus, une nuée de témoins. Alléluia l'accompagne. Et cette nuée de témoins témoigne de leur foi et de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, prenons courage, frères et sœurs, le Seigneur est celui qui est avec nous. Amen.